Infiltrée, une femme au stup. Interpellée, quand on est une femme. J'avais fait de la boxe française à l'école de police, mais je ne m'étais jamais battue en dehors de l'entraînement. Un soir qu'on avait fini la journée, il nous restait juste un tuyau à vérifier à Château-Rouge, rue Poulet. C'est une rue où même le bon Dieu a perdu ses savates. On tourne un peu. On nous a parlé d'un mec qui vend de l'héros vers la rue Mira. Un vrai pléonasme. Dans la rue Mira, il y a un dealer tous les 4 mètres. Je n'ai pas peur, mais je sais que nous ne sommes pas en force si on doit interpeller. Même si cela ne semble pas très féministe, il y a une réalité. Nous sommes 3 policiers, 2 mecs et moi, mais nous ne sommes pas vraiment 3. Car quand on fait 55 kilos, on n'est pas la reine du catch. Au coin d'une rue, on repère le mec dont on nous a parlé, avec l'inévitable suite de couleurs à capuche. Il est justement en train de vendre une dose à 2 toxicos. Généralement, les toxicos ne sont pas des boxeurs, surtout ceux qui marchent à l'héros. Un des inspecteurs qui est avec moi dit « Allez, on tape !» Traduction, on les interpelle. On se met à courir. Yvan, qui est à côté de moi, me crie « À toi de jouer, il y en a un pour toi !» J'avais fait 4 ans de commissariat, donc je m'étais déjà pris des coups dans la gueule. Ni une ni deux, je le chope, je le plaque. Merci les potes de la BRI pour les stages sur le tatami. Je le menotte. Mais je ne mesurais pas ce que c'était. Pour interpeller, il faut sauter sur un mec qui se débat ou tente de s'échapper, le tenir, et c'est beaucoup plus difficile que ce qu'on croit. Il faut surtout faire vite et lui sauter dessus avant qu'il ne se mette à courir et disparaisse dans la nature. Il faut aussi l'empêcher d'avaler les bonbonnes, les boulettes de drogue qu'il met dans sa bouche, d'où son surnom de hamster. Une bonbonne, c'est la drogue déjà conditionnée, enfermée dans 2 ronds en plastique, soudés à la flamme d'un briquet. Si le plastique est blanc, c'est de l'héroïne, et si c'est bleu, c'est de la coke. Il est fréquent qu'au cours d'une arrestation, le dealer avale cette bonbonne, la récupère dans ses selles, puis la nettoie et retrouve sa drogue. Avec les 2 sacs superposés, il y a moins de risques que la bonbonne ne s'ouvre dans l'estomac. Sinon, la mort est au rendez-vous. Donc, quand on interpelle un hamster, il faut à tout prix l'empêcher d'avaler sa bonbonne. Sinon, il faut l'emmener à l'Hôtel Dieu. Les médecins lui donneront de l'IPK et on attendra que les bonbonnes ingurgitées ressortent dans les selles sur un grillage, en espérant qu'elles n'éclatent pas avant. Beaucoup de temps perdu, et c'est pas vraiment un des plus chouettes moments du métier. Au-delà de ces problèmes spécifiques à l'arrestation de dealers, quand on est une femme, l'interpellation n'est pas une action évidente. Mais je me débrouillais. J'éprouvais d'abord une sorte de crainte, vite dépassée par ma volonté de faire ce que je devais faire, et surtout, j'étais portée par cette montée d'adrénaline qui décuplait ma force. Parfois, ce n'était pas suffisant, et sans mes collègues, j'aurais été en mauvaise posture. Je travaillais encore dans le groupe de l'étage Orange. Nous recevons un tuyau sur des Aérois qui vendent de l'héros dans le 18e arrondissement. On planque dehors. C'est l'hiver et il fait très froid. Il fait tellement froid que je me suis résolue à mettre les sous-vêtements de thermolactyle que ma maman m'avait envoyés. On avait déjà interpellé plusieurs toxicos qui sortaient de l'immeuble. On avait trouvé sur eux de l'héros qu'ils achetaient au 7e étage chez les Aérois. Quand c'est au 7e étage, il ne faut pas traîner dans les escaliers lorsque tu veux intervenir. S'il y a d'autres trafiquants dans l'immeuble, ils ne doivent s'apercevoir de rien. Sinon, ils vont avertir les autres. On se tape les 7 étages au pas de course, tout en essayant de ne pas faire de bruit. J'étais engoncée dans ma doudoune, le sac à dos, la radio grande comme ça, les menottes, larmes. Au septième, je manque déjà de souffle, même en étant sportive. Mais il est vrai que je fumais comme un pompier. On frappe à la porte. Une nana ouvre. On rentre et on se rend compte qu'il y a bien plus de monde que ce que l'on croyait. Nous tombons sur un couple et deux copains à eux, sans compter deux gosses dans ces deux petites pièces. Des chambres de bonne réunies avec une kitchenette. Il fait au moins 30 degrés dans ce mini-appart. Pour l'isoler un peu, ils avaient tout calfeutré au plastique, puis mis le chauffage électrique à fond les manettes. Ce sont des trafiquants. Ils se doutent bien que je ne viens pas relever les compteurs d'eau. Eux, ils veulent s'enfuir, et nous, on veut les arrêter. La baston se généralise, et tout le monde essaye d'interpeller. Je me retrouve face à une Zaïroise hyper costaud, un peu plus petite que moi, mais qui se bat comme une lionne. Elle me pousse, elle m'envoie des coups terribles, et je me recroqueville pour éviter les plus graves, pour protéger mes organes vitaux. Elle m'encastre carrément dans la cheminée, à coups de pied, et je suis sauvée par un copain qui vient à la rescousse. Il planquait les rots dans des chenilles séchées. C'est un plat qu'on mange beaucoup en Afrique, et que j'adore. Il cachait aussi de la cam dans de la nourriture pour les poissons. Sous l'évier, je retrouve les sacs en plastique qui ont servi à faire les bonbonnes, où l'on met la drogue. Il y avait les ronds découpés. Nous mettons tout sous scellé. Les deux gamins, l'un s'appelait Capitaine Junior, avaient assisté à la scène. Mais comment faire? Ils étaient en danger dans ce milieu de dealers d'héroïne. Ils avaient 7 et 9 ans à peu près. Ça m'a brisé le cœur de les emmener et de les confier à une assistante sociale. Ils étaient effrayés, mais ils ne devaient pas non plus être épanouis de vivre avec des parents de cette sorte. On a trouvé plusieurs centaines de grammes. Ces gens étaient vraiment des dealers, pas des toxicos. Mais c'était germinal. Ce sont des moments que je n'oublierai jamais. Nous ramenons toute la bande au bureau. Commence alors le marathon de la procédure. On enchaîne audition sur audition. On veut savoir qui les approvisionne. Nos Aïrois sont fermés comme des huîtres. Ils finissent par lâcher une adresse en banlieue, chez une compatriote. On y fait une descente le lendemain. On trouve un peu de cam, planqué sous le matelas d'un nourrisson d'à peine un mois. Sa mère l'a appelé Rodier. « Mais pourquoi Rodier ?» demande un collègue à la trafiquante, histoire d'entamer la conversation avec cette personne peu causante. « Ben, pour la marque de vêtements, tiens » répond-elle. Notre fou rire laisse notre nouvelle copine de marbre. Elle ne répond à aucune de nos interrogations et ne dévoilera pas le nom de son propre fournisseur, répétant comme un mantra « Je ne sais pas qui a mis l'héroïne dans le lit de mon enfant. » Même le plastique découpé pour fabriquer des bonbonnes qu'on va retrouver sous l'évier ne dévie pas de sa ligne de défense, d'un iota. Elle rejoindra les autres Aïrois au dépôt. Nous faisons souvent irruption dans des scènes de misère. Mais nous sommes des policiers, pas des assistantes sociales. Un soir, nous intervenons chez des Africains. Il y avait une femme qui se prostituait sur une paillasse où elle avait mis une toile cirée. À chaque coït, elle nettoyait ça à l'éponge. C'était les grandes années du crack. Les interpellations se faisaient dans un milieu sordide, misérable. Nous découvrons des squats épouvantables, avec des mecs qui vendent du crack à des types détruits, pétrifiés. Je me souviens d'un vieil immeuble, partiellement muré, cassé de partout, vide et sans électricité, où nous sommes tombés sur un usager de crack qui n'avait pas l'air encore complètement clodo. Son histoire était rocambolesque. Il avait la trentaine, travaillait dans la pub, fumait du shit et avait un faible pour les prostituées du boulevard des Maréchaux vers la porte de la chapelle. Il y en avait une qu'il aimait un peu plus que bien. Elle l'avait initié. Il était complètement tombé là-dedans. Il avait tout perdu. Il dormait depuis quelques jours dans sa bagnole, mais il n'était qu'au début du grand plongeon. Il a été remis en liberté. En me quittant, il m'a dit « Vous êtes mon électrochoc. Merci. » Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Le crack, personne ne s'en défait comme ça. C'est terrifiant. L'actrice Fiona Gélin m'avait confié que la première fois qu'elle avait pris de la drogue, c'était avec un homme qu'elle avait aimé. Je comprends très bien. C'est souvent de cette façon que cela peut commencer. La drogue, c'est toujours une histoire de rencontre. Une histoire de manque à combler, mais aussi un espoir désespéré et faussé d'avance, de fusion et d'amour. C'est rarement chez soi et tout seul qu'on a l'idée de se faire son premier rail de coke ou d'héros. Je me souviens d'une sale histoire, en 1995. On nous appelle. Un type est mort d'overdose dans une sanisette du 13e arrondissement. C'était sa petite amie qui lui avait fait le shoot. Elle me dit qu'elle voulait se séparer de lui, mais qu'il ne pouvait pas se shooter sans elle. Étrange raisonnement. Folie. Ils ont 30 ans. Ils ont découvert la cam ensemble. Ils ont tout fait ensemble. La baise et la cam. Je crois même me rappeler qu'ils avaient un gosse. Dans ce qu'elle me raconte, je n'ai pas réussi à comprendre s'ils s'aimaient. Elle est désespérée. « Le salaud ! Il nous a vendu de la merde !» On fait analyser la cam, qui s'avère être d'une pureté extraordinaire, et on lui dit que c'est ça qui l'a tué. On lui demande à qui elle l'a acheté. C'est une toxico, donc elle part à droite, à gauche. Au bout d'un moment, je lui demande. « Bon, c'est qui ?»« Ah ben, je vais pas le dire !» Si je vous le dis, auprès de qui je vais me fournir ? Il a tué ton mec, quand même. Elle me répond que ce n'est pas sa faute. Le vendeur de mort reste plus important à ses yeux que son mec qui est mort. Si elle le balance, elle perdra son fournisseur. C'est inextricable, les couples de toxicos. L'histoire d'amour initiale se mélange à la consommation et à la dépendance. Et on se demande si ce n'est pas la prise de drogue en commun qui continue à cimenter le couple. Au stup, nous avons rencontré et parlé avec beaucoup de psychiatres. Nous ne pouvons pas nous confronter à des usagers de drogue avec seulement la froideur de la loi à faire respecter. D'ailleurs, c'est insupportable de se retrouver dans son rôle de policier avec des toxicos. J'aime mieux attraper des trafiquants, de gros trafiquants. Au moins, je peux rester manichéenne et faire mon boulot. Le dealer, c'est le méchant, point. Mais il y a aussi le dealer toxico. Il s'enrichit en revendant de la cam, en sachant qu'il peut tuer ses potes toxicomanes, mais il lui faut aussi la sienne. Et tout se complique. Le débat politique tourne toujours autour de la légalisation. Mais ce n'est pas le problème. Il faudrait qu'il y ait suffisamment de professionnels pour accompagner les toxicomanes, les sortir de la drogue et aussi les suivre au quotidien. Une fois que tu es sevré, mais que tu n'as ni maison, ni job, ni amis, qu'est-ce que tu fais ? J'aurais voulu que l'obligation de soins soit réelle, qu'elle soit à la fois simple et obligatoire, suivie d'une réinsertion bien accompagnée. Mais tous les budgets sont réduits à une peau de chagrin. L'arrivée des produits de substitution a été très bénéfique, ainsi que les centres de méthadone à Paris, dans certains hôpitaux. Un toxicomane pouvait venir tous les jours prendre son flacon de méthadone, ce qui lui permettait d'arrêter l'héroïne sans souffrir. C'est un produit ultra sucré, qui ne peut pas être injecté, car s'il est chauffé, cela devient du caramel. Donc les mecs restaient peut-être accros, certes, mais il n'était plus en manque. C'est un peu comme le patch anti-tabac. Un psy m'a expliqué qu'en fait, il y aurait toujours un manque en eux, jamais comblé. Mais au moins, leur état physique s'améliorait. Ils pouvaient recommencer à travailler, se réinsérer dans une vie presque normale. Et c'était déjà énorme. Or, qu'est-ce qu'ont imaginé les dealers? Ils savaient que les policiers n'avaient pas le droit d'interpeller autour des centres de méthadone. Ils se sont alors installés devant les hôpitaux, voire même à l'intérieur, pour refourguer de l'héros à ceux qui essayaient d'arrêter. Les toxicomanes sous substitut ont d'abord résisté pour la plupart. Mais les dealers leur ont proposé de la cocaïne. Donc tout un tas de toxicos sont passés à la coke alors qu'ils décrochaient de l'héros. L'interdiction pour la police d'agir près de ces endroits-là a eu pour conséquence que les dealers pouvaient vendre leurs cams en toute impunité et faire replonger les usagers. J'ai trouvé cela terrible, pervers, diabolique.